Sortir leur casier judiciaire, c'est déjà une criminalisation des victimes. Et en 1953, c'est exactement ce que l'on voyait déjà. Il y a une matrice de l'État dans la criminalisation des victimes pour se déresponsabiliser de ces crimes. Systématiquement, ce sont les mêmes choses. On parle d'émeutiers, on parle d'animaux, on parle de violence, on parle d'armes. Pourquoi fait-on ça? Pour justifier la légitime défense? On va en parler de la légitime défense. Évidemment qu'on va devoir en parler de la légitime défense. Mais voyez-vous, cette criminalisation, c'est déjà un crime en soi. Et de ce simple fait, je vous demanderai de déclarer l'État français coupable d'avoir criminalisé des victimes à qui il aurait dû rendre simplement hommage. Pourquoi est-ce si dur? Pourquoi est-ce si difficile pour l'État français de dire « nous avons commis une faute, la police n'aurait pas dû tirer, nous devons rendre hommage aux victimes ». Pourquoi n'entend-on jamais, pratiquement jamais, ce discours qui devrait être naturel? Pourquoi est-ce que l'État français, qui est sur le banc des accusés, ne reconnaît pas ses fautes pour permettre une pacification sociale, pour permettre un travail d'apaisement, pour permettre un travail historique, pour permettre que les victimes seront réconciliées, peut-être, si elles le souhaitent, avec leur bourreau. Et évidemment, j'en viens à ce traitement judiciaire inique qui est le troisième chef d'accusation de l'État français. Pour émettre une ordonnance de non-lieu, en 1957, le juge d'instruction s'est contenté d'avoir recours à la parole de qui? À la parole des policiers. À la parole de ceux qui étaient mis en cause. Parce que finalement, pour l'État français, pour la justice française, qui fait partie de l'État français, seule la parole des policiers compte. La parole des témoins ne compte pas, parce qu'ils sont militants politiques, parce qu'ils sont algériens. Seule la parole de ceux qui sont mis en cause compte. Imaginez-vous si l'on devait utiliser ce même traitement dans n'importe quelle infraction ou crime, si l'on devait retenir que la parole de celui qui est mis en cause, de celui qui est poursuivi pour un assassinat, pour un viol, pour des actes terribles, si l'on devait se contenter de cette parole-là, à quoi ressemblerait la justice? La justice, c'est le fait de compiler un certain nombre d'éléments pour permettre, in fine, au juge de trancher en fonction d'un charge et d'éléments à décharge. Dans les affaires de violence policière, dans celle du 14 juillet 1953, seule la parole des accusés a été prise en considération. Et d'ailleurs, à ma connaissance, ils n'ont même pas été mis en examen. On a pris leur témoignage et on les a considérés un peu comme des victimes. Pourquoi est-ce qu'on les a considérés comme des victimes? Parce que pour que la justice émette un non-lieu, il a fallu dire qu'il y avait légitime défense de la police française à l'égard des manifestants. Qu'est-ce que c'est que la légitime défense? Que vous entendez vous aussi toute la journée, à chaque fois qu'il y a un mort, à chaque fois qu'un jeune homme est tué, notamment dans les quartiers populaires ou ailleurs, au volant d'un véhicule. À chaque fois, eh bien, on entend les syndicats de police, on entend des ministres, on entend des représentants politiques arriver immédiatement alors qu'ils n'ont pas connaissance du moindre élément du dossier, alors qu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé, alors qu'il y a des vidéos qui disent le contraire, alors qu'il y a des évidences. Et aujourd'hui, la vidéo et les évidences n'ont plus aucun sens. Imaginez simplement deux secondes s'il y avait eu des vidéos ce 14 juillet 1953. Eh bien, ça n'aurait rien changé. Parce que l'image n'a aucun sens par rapport à la parole de l'État et par rapport à la parole des policiers. Il n'y a qu'une seule vérité pour l'État. La sienne. Les autres n'existent pas. La réalité n'existe plus. Et juste pour vous dire qu'effectivement, dans cette ordonnance de non-lieu, c'est seulement la parole des policiers qui a été retenue, même pire que ça. On a pris la parole d'un syndicaliste et d'un journaliste de l'Humanité. Et on a travesti cette parole pour essayer de considérer qu'il y avait des violences terribles commises par les manifestants. Il n'y avait pas d'armes, de poings, il n'y avait pas de couteaux, il n'y avait pas de pistolets. La légitime défense, c'est quoi ? La légitime défense, ça a toujours existé. C'est le droit de se défendre lorsqu'il y a une atteinte à l'intégrité corporelle. C'est le droit de se défendre lorsque la vie de soi-même ou d'un tiers est en danger. En l'occurrence, il y avait des pancartes comme armes. Et évidemment, la légitime défense implique un péril imminent, immédiat. La légitime défense implique la nécessité. La légitime défense implique la proportionnalité. Rien, aucune de ces conditions n'était réunie ce jour-là. Et l'on a considéré que tous les manifestants n'étaient qu'un seul homme, une individualité, une masse informe. Et on a tiré dans le tas. Et on a fait couler le sang partout. Les marches du métro de Nation dégoulinaient de sang. Je veux simplement d'abord, avant bientôt d'en terminer, rendre hommage à tous ceux qui sont venus au secours de ceux qui étaient blessés grièvement. À toutes ces femmes et ces hommes qui les ont portés vers une pharmacie, vers l'hôpital, pour essayer de les sauver lorsqu'ils avaient une fémorale atteinte et qu'ils auraient pu mourir quelques minutes plus tard. Je voudrais vraiment rendre hommage à ces âmes, à ces belles âmes, militants ou pas, qui, au péril de leur vie, parce que ça tirait, parce qu'il y avait un danger, eh bien, ont sauvé ces Algériens ou ces militants qui étaient blessés par balle. C'est à eux que l'on doit rendre hommage. Mais pour l'État, évidemment, pour la justice, oui, vous devrez déclarer coupable la justice française et l'État français d'avoir dissimulé, de n'avoir pris que la parole des policiers et d'avoir rendu un second outrage aux victimes et aux familles de victimes qui n'ont pas pu avoir une justice. Pour finir, il y a évidemment la démocratie qui a été sévèrement outragée, endommagée par l'État français. Et là aussi, vous devrez le déclarer coupable d'avoir dégradé la démocratie. D'abord, le droit de manifester, parce que vous le savez, on s'est servi de ce massacre de l'État, commis par l'État et par ses policiers, pour interdire les défilés populaires, ceux qui avaient lieu le 14 juillet 1953, depuis bien longtemps, l'esprit de la Révolution française. Non pas des défilés d'État militaires, non. Des défilés populaires, citoyens, ceux qui rendaient hommage à la Révolution française et à toutes les valeurs de la République. Pas celles de la loi séparatisme, non. Les valeurs de la République issues de l'État de droit, de la démocratie, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça, ce sont les valeurs de la République, pas celle qui consiste à stigmatiser les Algériens, les Arabes, les musulmans et tous les autres. Alors oui, l'État français est coupable également d'avoir dégradé l'État de droit, la Constitution, les libertés et l'esprit de la Révolution française. Alors voilà, pour terminer ces réquisitions, je voudrais d'abord et aussi vous dire que malheureusement, ça n'est pas terminé. Et malheureusement, ça ne fait qu'à s'accentuer. Le ministre de l'Intérieur vient de décider que le 14 juillet ne pourrait pas avoir lieu. Qu'il ne pourrait pas y avoir de festivités. Qu'on ne pourrait pas rendre hommage à l'esprit populaire et à l'esprit de la Révolution française. Parce que l'exaspération des quartiers populaires s'est exprimée. Parce que ceux qui sont sous une ségrégation depuis 70 ans, qui vivent sous les contrôles aux faciès en permanent, qui sont victimes de violences policières, invisibilisées, parce que noirs, parce que arabes, parce que issus de l'immigration, on en a eu marre de subir ça. Et, sincèrement, je m'étonne que l'exaspération populaire et des quartiers populaires ne s'expriment pas plus souvent compte tenu de ce qu'ils vivent depuis 70 ans. « Vous déclarerez l'État français pour tout ce que vivent les populations issues de l'immigration, vivant dans les quartiers populaires, parce que l'État français se rend coupable à chaque instant, depuis 70 ans, d'un traitement avilissant, dégradant, de violence, de contrôle social. Et il est temps que l'État français prenne conscience que cela ne peut pas durer, parce que nous sommes, en tout cas, selon la Constitution, selon la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, tous égaux devant la loi. Pour finir, je vous demanderai donc de déclarer l'État coupable de l'intégralité de ces crimes historiques, de ces crimes humains, et de choisir la peine qu'il vous plaira.
Sono le 22:30.
Radio Libertaire, nous sommes de nouveau en direct sur l'antenne. Donc en direct de nouveau sur l'antenne de cette fabuleuse radio. Amis des nuits radiophoniques et des vinyles qui craquent, bonsoir. Vous êtes à l'écoute du Post Non Radio Show. Ouais. Salut.
Salut Henrik. Ouais.
Salut Serge, salut.
Ça va ?
Salut Guy. Ouais. Alors ce soir, bonjour. Salut. Ouais. Voilà, attends, ton micro.
Bonjour à tous. Voilà.
Ouais. Bonjour à tous. Ouais. Et le tien ?
Le mien, oui, il fonctionne bien.
Attends bien, oui, je pense.
Donc, Yves n'est pas là ce soir. Voilà.
Il a tort.
Il est un peu fatigué.
Allez,
on va dire ça comme ça. Il est un peu patraque.
Oui.
D'ailleurs, moi aussi, un peu, mais bon,
ça arrive.
Un peu comme d'habitude. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu moite du front. Je me demande si j'ai de la fièvre, j'ai peut-être chopé le Covid. Manquerait plus que ça. Franchement. Donc, un énième numéro de cette émission, une fois de plus, le vendredi soir. C'est 22h30, mais on commence un peu quelquefois en avance. Quand voilà, il n'y a personne à l'antenne, on se dit autant être là que de laisser la fameuse playlist automatique défilée, elle est bien, ça, ok, pas de doute. Mais nous aussi, on est bien aussi. Donc aussi, autant être en direct. Donc, voilà.
Bien plus bien, c'est mieux. Voilà.
J'osais pas le dire.
Non, mais je l'ai fait.
J'osais pas me placer au-dessus de la playlist automatique de la radio. Ah, oh, mais voilà.
Ah, moi, j'aime bien.
Non, parce que je finis par être taxé d'être non seulement quelqu'un de cynique, mais à l'humour trash et malveillant, et en plus d'être prétentieux.
Ah ouais.
C'est pas réellement moi dans la vie, mais bon,
non.
Finalement ici c'est pas vraiment non plus la vraie vie, enfin c'est la vie plus. C'est la vie plus, donc t'es le mec il se croit en train de donner une interview, c'est comme les acteurs de théâtre, c'est le théâtre, c'est la vie mais avec quelque chose de plus. La radio c'est un peu ça, on est soi et pas forcément soi, un peu plus que soi en fait, voilà.
Belle alors, philosophie.
Ouais, non mais je pense que, bah, je dis pas que c'est un rôle, mais c'est un soi augmenté, on va dire.
Mm-hmm.
C'est soi, mais c'est pas soi tout le temps. T'es pas tout le temps comme ça dans la vie. Je suis pas.
Non, non.
Je suis pas non plus foncièrement une créature nocturne comme ça, un peu vipérine et.
On n'est pas dans la soie.
Non. Mais on ne fait pas dans la soie ici. Bon.
Non, non.
Alors, la librairie, j'ai chaud. Alors, il commence à faire frais dehors. Là, j'ai chaud. Donc, je me dis, je couvre un truc. J'espère que non, vu mon état de santé, ça me vaudrait encore. Enfin, bref. Alors, la librairie Publico a repris ses activités. Ses activités donc de rencontres avec le public. Il y en a une pour demain, le quasiment dernier jour, avant dernier jour du mois de septembre. C'est à 16h la présentation lecture de poèmes militants Feuilles volantes de Monica Journet.
Ah oui, on retrouve.
Oui, c'est aux éditions, Libertaire.
Oui.
On passe au samedi 7. Vraiment, j'ai des frissons, c'est bizarre. Ah, j'espère que je couvre rien. Bref, le samedi 7, à 16h, projection, débat, l'étrange milliardaire algérien, Monsieur Khalifa, de Jean-Baptiste Rivoire. Donc, c'est à 16h... une projection suivie d'un échange.
Oui.
Ok, le jeudi 12 octobre, pardon, 19h, concert de Gaëtan Henrion et c'est de la chanson. On passe au samedi 14, 16h, les 25 ans de la revue Réfraction. Et ça sera l'occasion de la présentation débat, avec un débat du numéro 50 de cette revue. Je pense que ça doit être une revue d'analyse, etc.
Oui, Réfraction, oui.
De l'actualité. Et puis, pour la dernière du mois d'octobre, je suppose qu'il y en aura d'autres. Ainsi, donc, dans le reste du mois. Mardi 17 octobre, 19h, Michel Bernard, présentation du livre « Quand vous me rendrez... » Non. Ah si, du livre. « Quand vous me rendrez visite », paru chez EPM Musique. Voilà, c'est ça qui m'a un peu trompé. Accompagné de quelques chansons.
Ah oui, Michel Bernard...
C'est le programme de Michel Bernard pour ce mardi 17 octobre à 19h. Donc ça s'arrête là. Alors il y a un petit mot en plus sur Michel Bernard. Ça retrace librement son chemin artistique depuis 50 ans, reconnu par la profession et par un public passionné de chansons expressives, pour laquelle l'alliance des mots et de la musique portée par une voix hors du commun reflète le sel de l'humanité. Elle nous offre une œuvre majeure dans le paysage francophone. Cette biographie est suivie de l'intégralité de ses textes, dont ses 350 titres enregistrés et présentés dans 22 albums, accompagné de nombreux documents et témoignages inédits et présenté par une préface de Anne Sylvestre. C'est avec la participation de Laurent Carmé et Cécile Prévost-Thomas. Voilà.
Alors, Michel Bernard, pour ajouter un petit truc comme ça, moi, je l'ai vu chanter déjà au début des années 70 au comité d'établissement de Renault.
Alors, la suite, c'est une suite.
Oui.
À révélation du printemps de Bourges en 1978, elle enchaîne depuis les concerts, réalise des spectacles collectifs aux formes ambitieuses et surtout écrit et compose des chansons par centaines. Mmh. Révoltée, tendre, etc. Il y en a pour tout le monde. Et c'est ce qu'elle raconte dans son livre. Quoi d'autre ? Le goût pour la poésie, la mise en musique. Elle parle de son amour chevillé au corps de la chanson et de la place qu'elle occupe dans sa vie. Ça se sent sans doute bien qu'elle doit avoir une place prépondérante. Alors, voilà. Michel Bernard, vie, chanson de Fontune, c'est ce que je pense, c'est ce que j'étais en train de dire plus ou moins. En substance, son témoignage, son travail en direction des enfants ou des amateurs avec des activités musicales qu'elle organise depuis 30 ans à Saint-Julien, à Molin-Molette. C'est sympa comme nom, ça, Saint-Julien Molin-Molette. Son fief bien-aimé du parc naturel régional du Pilat. Ah, ça doit être sympa, ça, comme quoi. Attraper le temps pour regarder le monde, prendre sa température, essayer de le comprendre, accepter de ne pas le comprendre, admirer le beau, hurler le haie, le lait, garder la tête haute, écrire et chanter, c'est... voilà, la raison d'être, on va dire, de Michel Bernard. Et en 2023, elle a enregistré son dernier album et il a écrit, et participé à la parution de cette biographie de plus de 550 pages. Il s'en est suivi une tournée en quatuor à partir de septembre sur tout le territoire. Voilà. J'ai dit tout ce que j'ai pu trouver sur Michel Bernard. Voilà, Michel Bernard.
C'est très bien, Henrik. Oui.
Bah, de rien.
Ouais. Ah, bah si.
J'ai rien fait. Ouais. C'est voilà. Michel qui a tout fait, là.
Ah, bah oui.
Mais ça donne envie. Ça donne envie, je suis pas... Non, moi, j'aime bien la chanson française. Je suis pas particulièrement de cloisonnage. Donc, ça donne envie, là, tout d'un coup, d'être...
Oui.
Voilà. OK, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que quelqu'un veut entamer quelque chose ? Ou bien...
Je sais pas, t'avais quelque chose d'intéressant derrière Michel Bernard
Bah non.
Ah bah
j'ai
non.
Dit, j'ai
ah
dit
bah en... oui, tu vois, tu trouves pas quelque chose à la hauteur de Michel Bernard. Hein,
ouais. Ah bah, attends, je sais pas si... Attends, je regarde. Bah, je sais pas si elles sont... Si toutes... Ah bah si, toutes les animations sont autant détaillées. Ah, c'est bien ça.
Donc c'est bien, donc on renvoie quand même à ce site. Hein, pour,
Donc ouais. On vous renvoie au site de alors, c'est
la librairie.
Voilà, c'est le site de la librairie Publico.
Ah oui, c'est bien.
Et
c'est
bien
les
infos et les événements de la librairie.
Voilà, oui.
Ben alors, musique. Thank you. The Boss Non-Radio Show, Radio Libertaire.
Le morceau jusqu'à la toute fin.
Jusqu'à la toute fin, comme souvent, comme toujours, en fait. Vous êtes attentif, vous avez dû le remarquer, c'est toujours les morceaux jusqu'à la fin. Je coupe assez rarement, en fait pas du tout.
C'est vrai.
Je coupe jamais les morceaux, en fait. Je me dis autant en profiter, voilà, on les écoute.
Et c'est très bien ça, oui. Oui.
On est là pour les écouter, on est là pour écouter de la musique.
Je suis positif, hein, t'as vu.
Alors,
c'est très bien.
Avant que je présente tout ça, il y a un rendez-vous demain à Merlieu, tu nous en as parlé tout à l'heure, Guy.
Ah oui, bah oui. Donc j'en reparle alors
Bah oui, vas-y, parle-en.
Ah oui, 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 parce que tout à l'heure c'était... C'était pas à la radio.
Oui, c'était hors micro. C'était au resto.
Mais oui, tu vois, une fois que tu sors de chez toi, ça y est, c'est la radio. Hein. Tu crois que c'est la radio.
Ah, ben bah moi, ouais.
C'est formidable.
Formidable, par un micro, tu sais, tu serais là.
Oui, oui, oui. Merlieu, c'est demain, ça commence demain soir. Un apéritif à partir de 17h.
Alors, voilà, il faut 19h. Préciser que Merlieu, c'est. Oui.
C'est dans l'Aisne, hein. C'est
voilà, il faut quand
côté
même
de Laon, à 10 km de Laon.
Il faut quand même s'y rendre.
Laon, ça s'écrit. Hein.
Il faut voilà. S'y rendre.
Il faut s'y rendre. Il faut prendre le train.
À Gare du Nord.
C'est pas mal quand je dis ça. Il faut prendre le train. Mais où? Oui, à Gare du Nord, t'as raison. Voilà. À Gare du Nord et jusque Laon. Hein, ça doit passer là. Est-ce que ça. Où ça va après? Je sais pas. La direction globale, c'est la Belgique pour moi. Sans doute. Pourquoi pas? Laon-Bruxelles.
Mais je sais pas.
Oui, Laon-Bruxelles. Et donc, de là, eh bien, il y a toujours un service de cars, de voitures personnelles aussi, qui vont chercher les gens à la gare. Hein, voilà, parce que durant ces... Tout au moins le dimanche, voilà. Le samedi, c'est un peu spécial, puisque tous ceux qui sont tendance libertaire, tout ça, ou même pas, des fois, ce sont des amis, hein, bien du groupe... le groupe libertaire qui est là-bas sur place. Et donc... et tous les ans, qui participent à cette... qui à un moment l'a fait toute seule, il y a très longtemps, c'est l'annonce de cette journée du dimanche, c'est la fête du livre à Merlieu et sur son 31, voilà. C'est très bien présenté et effectivement, 31e fois de participation. Le groupe, je ne sais pas depuis quand, ils sont autonomes pour avoir un encart, donc libertaire. Je saurais pas dire exactement. Voilà, au début, ils avaient leur stand personnel au sein de la fête, donc tout en participant avec la commune de Merlieu. Et puis ensuite, ils ont été un peu à l'écart. Et puis tout se passe maintenant dans l'encart du groupe Kropotkine. Voilà comment c'est présenté. Avec avec des stands très très personnalisés, avec des écrivains que l'on fait venir nous-mêmes, tout ça c'est beaucoup de travail, mais c'est très 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 intéressant. Alors à partir de 19h, eh bien même la municipalité, enfin tout au moins le maire vient toujours pour avec le groupe Kropotkine prendre l'apéritif, puisque ensuite le groupe Kropotkine prépare un repas. Faut s'inscrire à l'avance, mais je pense que, comme toujours, on peut toujours arriver aussi en dernière minute et puis participer quand même, manger et puis arriver à trouver encore un petit plat quelconque. Voilà. Et la grande journée, c'est le lendemain, voilà, tout le dimanche, avec, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, on a eu de l'eau. Voilà, pratiquement de 7h, 8h du matin déjà, jusqu'à 4h, 5h d'après-midi. Donc c'était cuit complètement. Mais il y a eu une bonne ambiance. Il y avait des stands quand même qui étaient tous couverts, on va dire, voilà, protégés de l'eau. Mais bon, il y avait moins de personnes qui se sont déplacées, qui ont dérogé un peu de la fête du village en passant à l'intérieur donc du groupe Kropotkine. Le beau temps est prévu, tout est à 100% voilà, cette année. Donc vous pouvez venir, c'est pas très long. J'aurais pas dire combien c'est en train pour ça doit pas être plus d'une heure. tout simplement. Parce que d'ici à l'an, je dis à 120 km peut-être, voilà, ouais. Avec le réseau ferré, oui. 120, 125 km, on peut tabler là-dessus. Vous êtes tous attendus, tout simplement. Que dire encore? Alors, il y a des choses sur la commune aussi demain, il y a des rendez-vous hein, qui sont donnés, il y a des dates là, qui sont auxquelles il y a beaucoup de libertaires aussi qui vont y aller, qui vont participer. Sur Paris, hein, sur Paris, principalement aussi sur le 13e, la Butte aux Cailles, tout ça, il y a beaucoup d'endroits qui sont donnés, Père-Lachaise, etc.
Ok.
Voilà, voilà. C'est très, très bien.
Donc, toi, tu y seras demain.
Oui, allez sur le site, hein, parce que ceux qui sont invités pour présenter quelque chose, des livres nouveaux, seront là, hein, voilà, seront présents.
Ok.
Oui. Le stand de Radio Espéranto sera là-bas.
Ok, d'accord.
Voilà. On relatera ça la semaine prochaine.
D'accord.
L'édito du Monde Libertaire, vous le voulez, non? Du Monde. Voilà. Septembre.
Ouais, là, tout de suite.
C'est le dernier, oui. Tout de suite.
Allez, vas-y, tout de suite.
On ne se fasse pas une table que l'on souhaite renverser. Alors, c'est. On ne va pas dire que c'est prémonitoire parce que c'est le numéro de septembre, mais enfin c'est assez vite écrit pour, avec un titre comme ça, mais bon, il n'y a pas trop d'allusions sur ce qui aurait pu se passer, ce qui s'est passé, ce qui va être relaté dans Trou Noir, lundi, écoutez Trou Noir, tiens, voilà, si vous voulez avoir des échos de Saint-Imier sur des participants qui ont présenté des livres, comme nous, on a présenté l'espéranto, et voilà, on raconte, comment on a vécu sur le stand, toutes ces personnes qui sont venues nous rencontrer, en fait, hein, et puis qui croyaient qu'on était vraiment animateurs de beaucoup de choses, mais, et de beaucoup de gens, et ben voilà, qui nous écoutent sans doute maintenant, qui écoutent le vendredi, les émissions de Radio Espéranto, les émissions qui suivent. Vraiment, vraiment, on a été contents de rencontrer toutes ces personnes qui sont même très loin et qui nous disent comment on peut mieux écouter maintenant, comment on peut faire, comment on peut... Je leur dis, c'est pas possible, Radio Libertaire est quand même bien écouté, rediffusé, et surtout, le podcast est surtout très très utile, quoi. C'est vraiment...
Oui, très efficace.
Oh, c'est formidable, oui, il est bien, oui.
Donc, cet édito.
Cet édito. Reboosté par nos lectures estivales, explorons les sentiers de celles et ceux qui rêvaient d'une vie que l'on prend par la taille sans avoir à la gagner comme une bataille. C'est Moustaki, hein, dans le droit à la paresse, qui dit ça, voilà. Ce monde bouge et bouscule toutes nos certitudes. Bien sûr, ce n'est pas un scoop, mais des événements récents, porteurs d'espoir, d'union, comme en Espagne, ou tristement porteurs de réflexes d'exclusion, viennent nous interroger. Peut-être est-il temps de réaffirmer nos valeurs fondatrices, nous aussi, hein, et surtout d'envisager les perspectives de l'anarchisme, et ne cédant en rien aux sirènes libertariennes, prenant en compte les nouveaux terrains de lutte émergents, des souffrances désormais évidentes de celles et ceux qui cumulent domination, humiliation, exclusion. Donc le temps de faire la promotion de ces nouvelles perspectives comme un autre n'est certes pas venu encore, mais sans doute nous faut-il aujourd'hui en parler, diffuser les informations, partager les points de vue, débattre, c'est là une tâche à laquelle nous nous attaquons dans ce numéro, ayant pour dossier les perspectives anarchistes. C'est un sujet large, hein, permettant de parler de choses peu évoquées, de penser au futur de manière libertaire. Et dans ce numéro, vous trouverez bien les communiqués des relations extérieures, des relations intérieures, de la fédération anarchiste même, pourquoi pas, voilà, une critique de l'antispécisme, une interview des CNT françaises en passant par la poésie, une très belle poésie d'ailleurs, et puis des recensions ainsi que d'autres articles non cités ici mais qui valent le coup d'œil. Alors pour octobre, le dossier s'appellera « Barbecue mondial, on est cuit ». Donc on l'attend bientôt d'ailleurs déjà ce numéro d'octobre. Nous y attendons votre contribution et puis bon, ils attendent évidemment les contributions de tous, nos réflexions, ce qu'on a vécu l'été et puis... des ouvrages nouveaux que l'on doit trouver à la librairie Publico, des textes sur la situation internationale, et de ça ne pas en manquer parce que ça tout bouge, hein, tout est en effervescence. Des expériences autogestionnaires, des récits de lutte, et pourquoi pas l'actualité militante, et bien le monde libertaire, voilà. mondelibertaire@fédérationanarchiste.org, allez dessus, à vos crayons, à vos claviers, bonne rentrée, bonne lecture, comité de rédaction, voilà, plein pot.
Oui, j'avais oublié de dire donc que Radio Libertaire, 89.4, c'est ça, c'est à Paris. Serge, on ne s'endort pas.
Oula. Non, je ne m'endors pas.
Si, j'écoute. Non, t'as la digestion. Alors, Libertaire, c'est 89.4.
C'est 89.4.
Sur la bande FM parisienne. Ouais. On peut nous capter assez loin quand même.
Oui.
Puis sur internet, radio-libertaire.net. Et également un autre site sur lequel vous pouvez nous écouter et réécouter, c'est anarchiste.info.
Voilà, oui.
Voilà.
C'est ça. Anarchiste.info, attention. Oui, oui.
Anarchiste.info.
Oui, oui.
Ouais. We'll be right back. The Post Non-Radio Show, l'émission des vinyles qui craquent. Vous l'aurez peut-être reconnu pour certains d'entre vous, il s'agit de Suzy and the Banshees.
Ah, Suzy and the Banshees, c'est ça?
Ouais, moi je dis Suzy, si tu veux. Allez, Suzy and the Banshees, allez, soyons précis, nous avons notre maître Capello à bord. Alors j'ai dit Suzy, c'était X, alors donc voilà. Donc.
Très bien, Yves. Enrique, vous ne l'avez pas vu, bien sûr, les auditeurs ne t'ont pas vu, mais tu as vraiment imité les gestes et tout de Maître Capello.
Oui, ouais, comme ça. Oui.
Il avait les lunettes. Hein,
et oui, puis, mais oui. Serge, il les a, les lunettes. Oh, Maître Capello.
Oui.
Donc, Suzy and the Banshees.
Oui.
Bah, c'est la programmation musicale de ce soir, Suzy and the Banshees. Une partie, une petite partie de sa discographie en vinyle d'époque. Alors, c'est en gros, c'est les années 80. Hein.
Oui.
On a eu Spellbound, single de 1981, puis un extrait de Yena, album de 1984. À l'instant, cette reprise des Beatles en 1983, mais il y aura également 1984, il y aura 1986 et 85. Alors c'est ceux dont j'avais fait l'acquisition à l'époque pour la grande majorité. Et donc c'est une petite partie, hein, vraiment, parce qu'elle a sorti beaucoup d'albums, puisque c'est un groupe, hein, il y a une bonne grosse dizaine d'albums, un peu plus que 10, beaucoup de il y en a 3, 6, ouais, voilà, une petite douzaine. Des EP, les Maxi 45 Tours et les 45 Tours. Alors, ça fait un moment que je cherche à acheter d'autres vinyles de Suzy. Et j'ai fini par en trouver, mais je les ai trouvés quand même un peu chers, à vrai dire, de l'ordre d'une trentaine à quarantaine d'euros l'album.
Oui.
Explosé, mais littéralement, c'est devenu stratosphérique. Il y avait eu. Moi, j'étais étonné. J'étais étonné de pas en voir chez les disquaires, bien qu'il y ait eu des rééditions ces dernières années, toute une série de rééditions. Et quand je les ai trouvés, en fait, voilà, à des prix stratosphériques. Donc, je me suis dit non, bon. Il y a peut-être, à un certain moment, je me serais lâché, j'aurais dit, ok, un album pour 40 euros, pourquoi pas, allez, je le veux. Mais là, je me suis dit, non, c'est trop. Enfin, c'est un album que je vais écouter 3 à 4 fois, je vais le diffuser, puis 40 euros, quoi.
Ah oui, oui.
40 euros, c'est même pas, comment dire, quelque chose qui tourne.
C'est cher, la crêpe de goudron.
Ouais, c'est... c'est cher.
Ouais.
Y a une inflation totale sur les prix du vinyle.
Oh,
ouais,
non,
ouais. C'est absolument
hallucinant. Sur les prix des cassettes aussi.
Oui, c'est aberrant.
Ah bon, ah, ouais.
Cassettes.
Voilà.
Ah oui, parce que oui. Enfin, c'est moins à la mode qu'en Angleterre. Hein. En Angleterre, c'est la super mode des cassettes.
Ouais.
Ils sont plus cassettes qu'ici. Mais ça reste quand même à des prix raisonnables. Le problème avec l'Angleterre, c'est qu'il faut payer les frais de les frais de port. Mmh. Ah, et ça, alors là, c'est pareil. Tu payes deux fois le disque. Enfin, et non, j'ai pas eu envie, quoi. Je me suis dit, ok, bah, on va se contenter de cette programmation, de ce choix de morceaux qui finalement vont bien ensemble. Je vais pas en rajouter, il y en a déjà quand même pas mal. Je vais pas en rajouter. Là, c'est certes une petite partie de la disco, tant pis s'il n'y a pas l'entièreté, ou enfin si ça pioche pas un peu dans la bonne grosse dizaine d'albums, etc. Tant pis, c'est pas grave, mais là. Là, je commence un peu à dire non au niveau des vinyles. Je trouve que c'est vraiment abusif, quoi. Abusif. Voilà, c'est scandaleux. Surtout pour des disques qui vont finir dans les bacs à soldes. Pour la plupart. La plupart finissent... deux ans après, tu les retrouves dans des bacs à soldes à 10 euros. Voilà, quoi. Donc, oui. C'était bien la peine de faire du matraquage pour finalement pas les vendre. Donc autant les vendre à des prix raisonnables et les écouler, plutôt que de retrouver avec des stocks. Enfin bref, ça c'est leur affaire. Sauf que là, ça devient intolérable, quoi.
Je suis d'accord avec toi.
Intolérable. Par contre, je savais pas qu'au niveau des cassettes, il y avait une inflation. Tu veux dire sur le marché français? Parce que j'en ai vu chez Gilbert, c'est là où j'ai trouvé justement les vinyles.
Mais la cassette est encore, et malheureusement, un objet de luxe, malheureusement.
Bah, faut-il encore avoir des radiocassettes?
Oui, oui.
Parce que je sais pas, moi, je vois des cassettes, mais je vois pas beaucoup de radiocassettes en vente. Hein.
Non, il y en a pas beaucoup.
Je sais pas où ça se trouve.
Dans les magasins de vieilles chenifi, etc., de réparation de chenifi, des choses comme ça.
Moi j'en ai deux. Bon, ils sont vieillissants. Bon, mais justement, j'ai vu des cassettes, chose que, alors à part des groupes underground, des petits labels qui sortaient, il y en avait plus quand même. Mais je me suis pas arrêté, j'ai pas vu les prix en fait. Donc je sais pas, où est-ce que tu as vu ça, toi?
Non, mais je pense que souvent quand il y a un album lancé, bon, j'ai vu ça en télé.
Maintenant il y a des cassettes.
Voilà.
Maintenant ils refont la totale. Ils refont CD 33, enfin LP vinyle, c'est cassette ça. Et digital.
Tout à fait.
C'est très chic, machin, mais voilà. C'est pareil. Mis à part. Ils copient sur le marché plus indépendant, machin, où ils se disent ah bah tiens, regarde. Mais je sais pas du tout si quelqu'un qui écoute, je sais pas moi. Je vais dire une connerie, mais quelqu'un qui écoute Louane, un truc comme ça, là, enfin, la variétoche de merde française, celle qu'on n'aime pas, je vois pas ce genre de dos acheter des cassettes.
Non.
Je ne sais pas à qui est destiné vraiment ce marché. Moi, par exemple, dans l'alternative, l'underground et tout, il y a vraiment un rapport à la fin. Pour le commercial aussi, il y avait un rapport à la cassette, mais ils l'ont lâché depuis très longtemps. Alors que les autres ont continué à en vendre. Mmh. Avec des histoires d'objets sonores, machin, truc. Et donc il y a une sorte de continuité dans l'histoire avec le support. Mmh. Donc moi, par exemple, j'ai acheté quelques cassettes ces dernières années, j'en ai acheté. J'en ai diffusé d'ailleurs. Le truc, je t'ai coupé, excuse-moi. C'est à qui est destiné, à qui sont destinés ces supports concernant certains artistes et certains pans de la musique, quoi. À qui?
Mm-hmm. Ben, je pense que au niveau justement, bon, les cassettes, bon, sont beaucoup moins fréquentes que les vinyles.
Ouais.
Que les vinyles. Mais ça reste un objet de luxe, effectivement. C'est quand on, comme si on en ferait une bague ou un truc comme ça.
À 30 euros le vinyle, excuse-moi, c'est quand même. Alors, c'est entre 10 et 15 le 45 tours. Alors, parce que dans une des brocantes, enfin, dans un des. Ouais, des brocantes, c'était Quiberon. J'ai trouvé le même 45 tours de Spellbound, là, de Siouxsie. Je l'ai trouvé à 20 euros. Alors, de d'époque, hein. Mm-hmm. Alors, 20 euros, merde. J'étais... je fouillais et tout, je me dis, ça serait bien que je trouve un 45 de Suzy, tu vois. Bah, je suis tombé sur le verre, bon, je l'ai déjà. Mais 20 euros, quoi. Ok, c'est une pièce hyper rare. C'est... Mais quand même, non, puis alors après, voilà. C'est, on est dans la bulle, plutôt dans une espèce de politique de sortie des grosses maisons de disques.
Plus on peut se faire du fric, plus mieux c'est.
Mais je ne sais pas, je ne sais pas, quand tu vas par exemple à la Fnac, tu vois tous ces bacs de disques en solde, je ne sais pas à qui ça s'adresse, quoi. Je ne sais pas à qui s'adressent tous ces vinyles d'un tas d'artistes.
J'ai l'impression même que parfois, ils ne les vendent pas vraiment. Ils ont du mal à les vendre.
C'est ce que je pense aussi. Je pense qu'ils ne les vendent pas. Je pense qu'ils doivent vendre beaucoup de digital.
Oui.
Mais je ne sais pas s'ils vendent vraiment beaucoup de vinyles, quoi. Mmh. Alors, de la cassette, encore moins. Ils doivent encore vendre du CD, mais de la cassette. Sérieusement. Enfin, je sais pas, je connais pas les chiffres. Il faudrait avoir les chiffres en vente. Mm-hmm. Il faudrait trouver toutes ces histoires de vente, à savoir qui vend quoi et comment. Mais enfin, voilà. C'est... l'éternel, enfin, plus ça va, plus c'est, on est dans un système inflationniste, quoi. C'est non, ils vont pas, les prix vont pas stagner ni baisser, c'est non, ils augmentent.
Ah oui, toujours.
Toujours plus.
Oh là là.
Donc voilà, on va se passer un morceau de musique, on va se faire un café et on continue toujours avec Siouxsie and the Banshees.
Shining
Ok, on est de retour. Deux titres enchaînés, extraits de It Is in a Dream House Et puis ensuite, il y avait Cities in Dust. Merci pour le café, c'est cool. Alors, Ah, ça c'est de la radio, ça.
Ah oui, bah oui, 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 oui. J'ai tombé sur un article très intéressant sur la question.
Ah bah vas-y.
Avec la Boétie.
Ouais. La Boétie, c'est celui de la servitude volontaire, c'est ça?
Voilà, oui, oui, oui.
Oh, j'avais essayé de commencer à le lire, puis ça m'a pris la tête.
Bah oui, oui.
Et j'ai jamais réussi à lire ce truc.
Oui, pourtant c'est pas... C'est pas un bouquin d'une extrême épaisseur, hein, malgré
non,
tout.
Non, je sais.
Mais bon,
Ouais.
Et puis bon, le principe comme ça, il peut être intéressant, mais des fois l'écriture de l'ensemble, c'est pas bon, c'est pas des fois dans la même mouvance. Ouais. Alors là, c'est juste pour présenter eh bien ce livre-là, je pense, oui. Mais de toute façon, celui qui écrit l'article, c'est Antoine Bernard. Il écrit sur l'entraide, voilà. Il veut informer sur... mais la Boétie en a parlé beaucoup. Et puis, il revient un peu aux origines. C'est ce qui m'intéresse, c'est toujours le côté histoire, quoi, voilà. Alors, il met que lorsque les premiers conquistadors, donc ça remonte assez loin, évidemment, débarquèrent eh bien, dans les Amériques, ils furent pour le moins étonnés de constater que certains peuples, les Indigos, comme ils disent ici, Indigos sans roi, Corsetta Belladone, ça c'est les références aussi pour le bouquin ACL 2017, eh bien, s'interrogeaient sur leur comportement. Ils disaient, mais comment était-il possible que les Blancs acceptent d'obéir à la volonté d'un seul homme? C'est vrai, c'est marrant de voir sous cet angle. La question, oui, posée sous cet angle. Alors, il dit, l'océan retraversé, cette interrogation fut en quelque sorte reprise par la Boétie lui-même. Puis d'un seul coup, il va se retrouver à la place des autres qu'il avait rencontrés là-bas, qui découvraient alors l'existence des sauvages. Interrogation retournée quand il s'avisa lui de la servitude volontaire de ses contemporains. Et effectivement, il a proposé quelque chose dans le même sens que ce qu'il lui avait retourné là-bas, sur cette question que eux, ben, ils savaient se comporter comme ça, tous ensemble, sans obéir à un seul homme. Voilà, ils avaient une autre manière de fonctionner. Alors, sous le titre « De la diversité des organisations humaines », il dit dans les sociétés dites sans État, mais pas pour autant, attention, hein, pas pour autant sans pouvoir, détenues, lui, par la communauté, les peuples pouvaient être représentés par un chef, ce dernier n'étant qu'un porte-parole, sans pouvoir coercitif, astreint à dire le respect des us, des coutumes, des traditions et du sacré, un chef qui pouvait être fléché s'il dérogeait. Et plusieurs types de chefferie, ils appellent ça de la chefferie, eh bien, pouvaient exister avec plus ou moins de pouvoir. Passant du sacré au divin, pouvant advenir des rois au pouvoir plus grand, mais relativement entravés dans leur domination par la société, ces pouvoirs délégués à des proches, à des fonctionnaires, à des chamans, à des prêtres institutionnalisés, voilà, seront à l'émergence eh bien, des structures pré-étatiques généralement fragiles. Bien entendu, les sociétés dites sans État n'avaient rien de comparable avec un mythique communisme primitif, de même qu'avec un ordre origine inégalitaire. Ce qui les caractérisait, c'est une volonté de ne pas légitimer un quelconque statut qui donnerait une légitimité institutionnelle pour commander ou exploiter le reste de la population. Et dès le début de l'histoire de l'humanité, diverses organisations sociales sont expérimentées de façon consciente. Alors, entrée des géométries variables. Par ailleurs, écrit Édouard Jourdain dans « Le sauvage et le politique », si les règles morales liées notamment à l'entraide sont relatives au degré de distance où se trouve l'hôte, si elles sont très intenses au sein du cercle familial, elles tendent à s'évanouir, voire à se retourner en franche hostilité à mesure que l'autre est éloigné de ce cercle. Alors, c'est des textes à réflexion, attention. Hein. Donc, il n'était guère possible d'imposer quoi que ce soit à des chasseurs-cueilleurs itinérants et qui cultivaient des petits jardins provisoires. C'est avec l'extension de l'agriculture que se créa un surplus, que se constituèrent des stocks de céréales qui permirent de lever un impôt. Ah ben oui, voilà. Base à la création de l'État. Édouard Jourdain précise, beaucoup de sociétés de chasseurs-cueilleurs refusèrent ce mode de vie au point que les deux sociétés cohabitèrent sans doute pendant plusieurs millénaires, mais cela au prix de guerre, qui virent finalement la victoire des agriculteurs, notamment en raison de leur force démographique. Alors, force n'est pas forcément violence, mais qu'entend-on par guerre ? C'est le propre du politique d'en déterminer l'articulation au gré notamment de la condition historique, nous dit-on. Nous dirons-nous, sans nier les violences entre ethnies différentes, que le conflit n'est pas synonyme de guerre et qu'il y a souvent confusion entre l'idée de force et celle de violence. Si Pierre Clastres a beaucoup marqué les auteurs par son archéologie de la violence, voire de la désobéissance, il serait bon d'y revenir. Si toutes les sociétés sans État ne connaissaient pas l'esclavage, cette pratique était, entre autres, une conséquence de la guerre ou de la razzia. Razzia, c'est des nomades contre les sédentaires. L'humain devenait alors une chose privée de tout droit que l'on pouvait exploiter ou tuer. Le salariat n'en serait qu'une sorte de prolongement. Les origines de la démocratie, pour finir le texte, eh bien Jourdain débouche alors sur l'écologie et sur ce que les sauvages, entre guillemets, peuvent témoigner, c'est-à-dire sur la bonne façon d'habiter la terre, habitude perdue quand les humains ont considéré la nature comme une altérité radicale, en développant des techniques de destruction sans frein et en ouvrant la voie à un capitalisme sauvage, cette fois au sens dépréciatif du terme. Alors, à l'encontre de ce que l'on enseigne communément, l'origine de la démocratie n'est pas grecque. C'est essentiellement par leur sens de la démocratie et le goût de l'égalité que se distinguent la plupart des sociétés d'Amérique, écrit Pierre Clastres. Nelson Mandela, dans un long chemin vers la liberté, explique que sa sensibilité politique est précisément née à l'écoute des palabres sans fin des réunions tribales avant de prendre une décision. Pour ne pas en terminer avec l'apport politique des sauvages, toujours entre guillemets, rappelons que certains historiens affirment que la Constitution américaine a notamment été inspirée par la structure fédéraliste de la Ligue de Six Nations Iroquoises. Voilà, signé André Bernard, Cercle Libertaire, Jean Barruet. Voilà, je vais regarder, puis je vous dirai tout à l'heure, le Cercle Libertaire Barouet, est-ce qu'il est en région parisienne ou automatiquement ailleurs, mais où ? Voilà.
Alors, il paraît que si tu prononces son nom trois fois devant un miroir, il apparaît. Candyman, Candyman, Candyman.
Thank you.
entre la prêtresse guerrière païenne, la musicienne magicienne et la sorcière gothique, Xiuxi and the Banshees.
Thank you.
The Post Non Radio Show sur Radio Libertaire. Alors, pendant mon second séjour en Bretagne, on est allé visiter un musée qui s'appelle l'Écomusée des Forges. C'est sur une très grosse usine de métallurgie qui existait, qui n'existe plus, bien sûr. Et donc, elle se situe dans... Alors, le musée est situé dans l'ancien laboratoire où il faisait des essais sur les métaux pour les rendre plus ceci, cela, pour, en fonction des diverses utilisations, en fait, auxquelles le métal était destiné. Par exemple, il a pu être utilisé pour faire des boîtes de conserve ou un tas d'autres choses. Et ce musée se trouve donc dans la région, alors exactement, il se trouve dans la ville d'Inzinzac-le-Christ. Alors c'est vraiment un nom de ville. La ville s'appelle vraiment Inzinzac-le-Christ. Le Christ est le petit dépliant. Le petit dépliant nous dit que cette ville d'Inzinzac-le-Christ se situe à une vingtaine de minutes de Lorient, en fait. Ça se situe dans la zone industrielle des Forges. Alors c'était situé le long d'une petite rivière qui s'appelle le Blavet. Il y a deux petites écluses. Tu es au début dans ce qui est quand même un quartier semi, on va dire, résidentiel, entre gros guillemets. Il y a des petits immeubles de trois étages, des trucs cubiques. Et puis tu continues sur la route. Et là, tu tombes vraiment sur ce qui était... Alors, c'était étalé sur plusieurs kilomètres, hein, toute cette usine qui était énorme. Et là, tu as vraiment un paysage de vieilles zones industrielles. Il reste quelques bâtiments. Le Blavet, la rivière, est encaissée entre deux petites collines. Alors, tu as des petites maisons sur une rive, et tu as des restes des bâtiments de cette époque. Une partie a été détruite, une partie du village ouvrier aussi a été détruite. Mais il reste ces bâtiments qui sont énormes. Alors certains sont désaffectés, d'autres sont toujours utilisés pour différentes sociétés. Mais ça a vraiment une atmosphère particulière, cet endroit, vraiment. Il y a un petit côté étrange comme ça, c'est assez bizarre. Et en fait, ça a été initié par une association d'enfants des ouvriers de cette usine qui, dans les années 70, fin 70, ont réussi, il me semble, c'est bien ça, mais je vais vous en dire plus dans deux minutes. Décidé de faire un musée à la mémoire de ces gens qui travaillaient dans des conditions extrêmement dures. C'était très très dur, hein. Franchement, on a vu un petit film, etc. Alors, t'as des machines, on voit des machines, on voit toutes sortes d'éléments qui... d'outils, de vêtements, de cette époque, de ce qui était utilisé dans cette usine. Alors c'est à partir de 1860 que les rives du Blavet accueillent donc une usine de fer blanc, fournissant les conserveries littorales de poissons. Alors, si je parle de ça, c'est parce que c'est quand même très important qu'il y ait une préservation de la mémoire ouvrière. On a beaucoup de musées sur des artistes, sur les richesses des riches, etc. Mais heureusement qu'il y a aussi des lieux de préservation de la mémoire du peuple, des gens plus modestes, des ouvriers, etc. Et donc, cette usine fournissait les conserveries littorales de poissons. Elle attirait pour le travail les paysans des campagnes environnantes. Les usines rythment rapidement toute la vie sociale, et ce jusqu'à leur fermeture en 1966. Alors, c'est l'histoire locale, c'est toute une histoire locale qu'on voit aussi à travers des photos, etc. De la lutte pour les droits sociaux. Les gosses travaillaient dès leur plus jeune âge. Hein. Il y avait des enfants d'une dizaine... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai pas mis vos micros.
Ah, comme à la mine.
Il y avait des enfants d'une dizaine d'années qui travaillaient. Il y avait des femmes également qui travaillaient. Le plus dur était... et c'était les hommes qui s'en occupaient. Alors, il faut voir. Hein. Parce que... T'avais d'immenses fours. Alors, ils recueillaient, d'après une partie du métal, c'était des rebuts d'autre chose. Donc, ils les fondaient. Alors, c'était terrifiant, parce qu'ils bossaient, ça allait jusqu'à 1200-1300 degrés.
Ah oui,
oui. Fallait faire extrêmement attention, il y a eu plein de morts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le métal a fondu, ils ouvraient un clapet... Et le métal se déversait pour aller se refroidir dans une sorte de rigole.
Oui,
de,
oui.
Et il y a eu des accidents où le métal a dévié, a sauté par-dessus la rigole et a cramé des mecs. Hein. Il y a eu des ouvriers qui ont été... Alors tu imagines, tu as du métal qui vient d'être en fusion à 1300 degrés. Et les mecs, par accident, alors, ils n'avaient pas de protection, t'imagines bien, dans les années 1800, 1900, ils y allaient avec des vêtements en tissu.
Mm-hmm.
Et là, tu avais des accidents où ils étaient carrément ensevelis sous la lave, sous le métal en fusion, et puis, évidemment... cramé, tu vois la mort, quoi. C'est absolument ignoble. Donc, évolution des machines, des techniques et la vie ouvrière, c'est tout ce qu'on peut trouver dans ce musée, qui est vraiment super intéressant, qui peut paraître comme ça rebutant parce que tu vois, c'est des vieux instruments, des vieilles machines, etc. Mais il en ressort quelque chose de très puissant, de très fort en fait. Il y a des costumes, comme je disais, des photographies, des maquettes. Et ça se veut le témoin en fait d'une histoire bretonne oubliée, cet écomusée. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Ce qui m'impressionne, c'est qu'effectivement, tu as dit que c'est le terrain de l'usine faisait plusieurs kilomètres. En tout cas, l'usine faisait plusieurs kilomètres.
4 kilomètres le long de la rivière.
Ah oui, c'est
ça. Tu avais l'usine, puis tu avais aussi de l'autre côté, ça occupait les deux berges. Tu avais aussi tout un village ouvrier où ils habitaient, oui. Où ils vivaient. Et... en fait, c'est en 1860 que les frères Henri et Émile Trottier créent une usine de fabrication de fer noir, de fer blanc et de fer imprimé à Kerglau, qui est le lieu-dit de la commune d'Azinzac-le-Christ. Alors, la présence du Blavet, la rivière, est décisive pour le transport des marchandises et l'aménagement d'une turbine hydraulique. L'abondance de la main-d'œuvre locale et la forte expansion des conserveries du littoral constituent des atouts supplémentaires. Je vous lis le petit dépliant. Pour l'entreprise des Trottiers, sur la colline surplombant l'usine, est bâti le premier village de Kerglau, très vite rebaptisé La Montagne. En 1882, c'est la forge familiale est achetée par la Société Générale des Cirages Français, qui en restera propriétaire jusqu'à la cessation des activités de l'usine en 1900. Les enfants occupent une position précaire dans la société industrielle du 19e siècle, comme vous le savez, et malgré les lois scolaires de Jules Verne en 1881-82, les enfants de moins de 12 ans travaillent aux forges jusqu'à 8 heures par jour.
Oh là là là.
Après la fondation du syndicat des métallurgistes aux forges en 1901, deux grèves longues et violentes éclatent. La première en 1903, 43 jours, permet aux manœuvres d'obtenir, tenez-vous bien, une gratification de 0,25 francs par jour. 0,20, c'est 0,1 centime.
Hein. Oui, oui, oui.
La seconde, en 1906, va durer 15 jours afin d'obtenir la journée des 8 heures, thème mobilisateur de l'époque. Cette journée des 8 heures sera finalement adoptée en France en 1919 et, tenez-vous bien, appliquée aux forges en 1925. Oh là. 6 ans plus tard.
Oh non.
Alors, t'as des maquettes. T'as un monsieur Lucien Le Guélec, ancien électricien aux forges de 1943 à 1966, qui a réalisé des maquettes vraiment super chouettes, très détaillées, très pointues, illustrant le travail dans les anciens laminoirs.
Laminoirs, voilà.
Voilà. Ah oui. Ouais.
C'est ça qui fait la longueur de l'usine, c'est les laminoirs.
Oui. Ouais. Alors, en 1900,